France Inter.com.
CO2 mon amour, avec Patrek, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Allez Ansel, bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement avec Olivier Rieutor et Michel Bézikian et assisté de Jean-Baptiste Audibert et Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Il y a eu de petites actualités sur deux roues parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine actuellement où il n'y a pas des déclarations de champions cyclistes qui nous disent « J'ai été dopé il y a 10 ans !» Ah bon, d'accord, donc on nous vend des exploits démonétisés. C'était bien le risque il n'y a pas tellement longtemps. Mais, le Tour de France, c'est quand même le ruban jaune de nos étés. Notre part de liberté sans stabilisateur et même les marmottes n'ont plus peur des klaxons et applaudissent les coureurs au bord de leur pierrier. Ils sont taillés comme des mines de crayon, le cœur affûté, et le sportif de haut niveau en fait ne roule pas pour le plaisir mais pour la douleur et en silence. Il se fait mal et nous, ça nous fait du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les suiveurs prennent en général 5 kilos en 3 semaines comme s'ils compensaient l'ascétisme de leur idole qui, elles, sont obligées de peser la moindre feuille de salade pour garder la ligne. Alors, a priori, on va se dire, le vélo et le tour sont une ode à l'écologie. On avance à l'énergie humaine, c'est sain, c'est beau, c'est propre. D'accord, m'objecterez-vous, il y a 2000 véhicules pour 180 coureurs. Et alors, certes, la caravane, calico ambulant, apothéose de couleur criarde au mauvais goût exquis, permet parfois aux gens de se massacrer pour des échantillons de pacotille ou des prospectus qui volent tel un lâcher de pigeons. Immédiatement après avoir transformé les bas-côtés en poubelles, tel un petit pousset conduisant un camion benne, la direction départementale de l'équipement local ramasse les reliefs de l'ogre bleu, blanc, jaune, et les rêves évanouis des enfants de la fabrique Amit. C'est pas beau ça, hein? Bon. Alors nous, on rêve comme ça, naïvement, d'un isolat où le sport rime avec pureté. Ces hommes pour qui j'ai le plus grand respect ne sont pas plus dopés en fait que la moyenne de la société, survitaminés ou sous-anxiolytiques. C'est une espèce de pacte faustien, dirait Olivier Dazat. Le champion troque une partie de sa jeunesse contre des morceaux de gloire. Le haut niveau, c'est vrai, est souvent dommageable. Regardez Van Gogh. Van Gogh perd une oreille, Artaud la raison, Balzac et Proust leur santé, et l'épreuve de l'éprouvette ne fait pas exception. Mais que les associations de protection des animaux se rassurent, il nous faut remercier en effet les coureurs. Les nouvelles molécules permettent de rouler aussi vite dans la montée d'un col que vous et moi dans la descente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles rentrent directement dans les fesses des coursiers, sans passer par la case expérimentation animale. Donc plus de souffrance pour les souris, les cochons, les chimpanzés, qui d'ailleurs ont rarement gagné le Tour de France. Donc le Tour aime la nature. Ben oui, c'est comme ça. Certes, quand un coureur fait pipi dans un champ, l'herbe a un petit peu de mal à repousser pendant 6 mois et les vaches galopent des heures comme un cheval emballé quand elles ont brouté par inadvertance un cachet oublié. Bon. Mais à côté de ça, on apprend du vocabulaire scientifique, de nouveaux acronymes, amphétamine, cortisone, peau belge, EPO. Pourquoi en fait l'industrie pharmaceutique ne sponsorise-t-elle pas directement les équipes? Une équipe Merck par exemple, je ne dis pas Merckx, mais bien Merck, Sanofi ou Bayer, ça aurait de l'allure quand même. Et moi, je rêve toujours quand je vois un vélo. Le vélo, c'est le moyen de locomotion de demain qui sauvera en partie les villes en apaisant surtout les rapports humains. Alors, quand on aime, on a toujours 20 ans, mais quand on fait du vélo, on a toujours un petit peu 10 ans. Le vélo reste une part de notre enfance et sera toujours l'anagramme de love. Alors, vive le tour et vive le vélo en ville. Ça m'a facilité les choses, hein, Denis Maupin, parce que là, avec cette actualité-là, c'était quand même assez formidable. Denis Maupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé des transports, de la circulation, du stationnement et de la voirie. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur vous, évidemment? Vous êtes traité alors, d'ayatollah, de bolchevique, un type qui ose s'attaquer comme ça aux voitures, c'est le sacrilège suprême, on le sait. Mais il y a peut-être une cohérence dans tout cela, parce qu'on va rappeler que les transports, en général, c'est 20% de l'énergie mondiale et 55% du pétrole. Et donc, là, vous êtes venu, non pas à ce titre-là, mais en tant que président président du Club des villes cyclables. Alors, qu'est-ce que c'est le Club des villes cyclables, s'il vous plaît?
Le Club des villes cyclables, c'est l'association, en fait, de toutes les villes qui mènent des politiques cyclables. Et donc, la plupart des grandes villes françaises sont maintenant membres du club, à part Marseille, je crois qu'elles y sont toutes, toutes les grandes villes. Donc, on représente une population d'environ 16 millions d'habitants qui sont donc concernés par des politiques qui sont menées. Alors, au début, beaucoup de ces villes ont commencé par réintroduire des aménagements pour les cyclistes. Parce que la première question qu'on se posait, évidemment, c'est comment mieux sécuriser le déplacement du cycliste pour attirer plus de cyclistes. Et donc, on a fait fleurir des pistes cyclables, des zones 30. Il y a des zones dans lesquelles
on ne doit pas déplacer
30 km/h pour les voitures, pour les cyclistes aussi, mais ça, c'est plus fréquent qu'on limite à 30 pour les cyclistes. Et donc, progressivement, donc des aménagements dans la ville. Et ainsi, le vélo a repris progressivement sa place. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons au sein du club, c'est qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire que la question qui se pose maintenant, c'est aussi de changer l'image du vélo. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait montrer que le vélo n'est pas ringard, que c'est un élément des politiques de déplacement. Et ce qu'on constate dans des villes comme Lyon, par exemple, où on a mis en place le dispositif Vélov, je pense qu'on en reparlera.
Et on va y aller tout à l'heure, voilà, bien sûr. Oui.
C'est que le vélo est devenu, au contraire, le moyen de déplacement tendance, le moyen de déplacement moderne, celui qui, au contraire, sur lequel on a envie de s'afficher pour montrer qu'on est avec la ville qui bouge, avec la ville qui progresse. C'est un peu la même chose que le tramway par rapport au bus.
D'accord.
On a vraiment de la qualité. C'est-à-dire que celui qui a pris l'habitude de se déplacer en voiture et qui a son autoradio, son confort, etc., pour qu'il n'ait pas le sentiment de régresser socialement quelque part, quand il laisse tomber la voiture pour un autre moyen de déplacement, il a envie de qualité. Donc le tramway ou les vélos en libre-service, ce sont des nouveaux moyens pour montrer qu'on peut se déplacer dans la ville de façon agréable, de façon utile, de façon efficace aussi, parce que ça va vite, plus vite que pour retrouver une place
stationnement. Attendez, lorsqu'on regarde effectivement la moyenne de circulation, on va dire, en ville, c'est du 13 km/h en voiture. Hein, c'est une moyenne à peu près. Donc,
16 à Paris, mais globalement, voilà, c'est à peu près c'est ça.
Donc, ce qui veut dire qu'on va s'y retrouver, parce qu'après, entre le moment où on va se poser pour trouver sa place de parking, etc., ça devient quand même très compliqué.
Donc. Voilà. Donc, la voiture n'est pas un moyen de déplacement adapté à la ville, il faut être clair. C'est énorme, une voiture, par rapport à l'espace dont on dispose dans les villes. Moi, je compare toujours sur la rue de Rivoli les trottoirs et la chaussée. Les trottoirs, ils font 2 mètres de large, on met 5 personnes de front, et sur la chaussée qui fait 5 mètres de large, on en met que 2 de front, parce qu'ils sont tous dans leur voiture tout seuls.
Alors, ce qu'on va dire, Denis Baupin, c'est qu'au cours de cette conversation, il ne s'agit pas d'opposer systématiquement automobile et vélo. C'est pas ça. C'est-à-dire que le vélo tout seul ne va pas résoudre tous les problèmes, les transports en commun tout seul ne vont pas résoudre tous les problèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on continue, je reprends le titre de votre ouvrage que vous avez sorti donc, aux éditions de l'Archipel, qui s'appelle « Tout voiture, nos futurs », si on continue dans ce gouffre-là, là, c'est sûr qu'on va dans le mur.
Quoi. Exactement. Il faut donc rééquilibrer la place des uns et des autres. C'est-à-dire que la voiture, évidemment, gardera une place, mais aujourd'hui, quand on regarde les enjeux du dérèglement climatique, et c'est vraiment un sujet dont on n'arrête pas de parler, et conférence du G8 la semaine prochaine, les débats, les conflits entre les membres du G8 portent sur la question du
George Bush à vélo, vous imaginez ça, vous
c'est
pas gagné.
Sans son cheval pour aller sur son 4x4 pour aller sur un vélo, c'est pas encore fait, en effet. Même si j'ai appris que les États-Unis sont un des pays où il y a le plus de vélos par habitant.
Bien sûr.
Mais, donc dérèglement climatique, crise pétrolière, pollution de l'air, insécurité routière, et puis aussi le fait qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, ça a des conséquences sociales. Pour ceux qui sont obligés de prendre la voiture, eh bien, le prix du pétrole, c'est évidemment quelque chose qui compte. Et donc, il faut trouver une place pour différents moyens de déplacement. Et le vélo, c'est une partie de la solution, d'autant que le plein, il est gratuit. Alors, sauf pour ceux du Tour de France, évidemment, où ça le plein se fait avec des piqûres. Mais pour le vélo en ville, pas besoin de piqûres.
Alors, Denis Baupin, je rappelle aussi que ce club des villes cyclables, donc, c'est un échange de bonnes pratiques que vous effectuez. Ça réunit bien sûr toutes les familles politique. À l'origine, il y avait Strasbourg, Lorient, Annecy, Bordeaux, Saumur, etc. Donc j'en oublie. Là, c'est vraiment tous les maires qui s'y sont mis.
Voilà, exactement. Dans toutes les villes aujourd'hui, on donne de la place au vélo. C'est pas une politique de gauche ou une politique de droite. Il y a des élus qui sont convaincus aujourd'hui qu'il faut modifier la façon dont on se déplace dans la ville parce que c'est une question de santé publique. Puis c'est aussi une question de la façon de vivre la ville.
Oui.
C'est-à-dire que quand on est dans sa voiture, on est quelque part enfermé dans sa bulle. Replié, c'est un peu le prolongement du domicile, alors qu'avec le vélo, on est au contact des
autres.
On
nous a vendu une voiture comme une résidence secondaire, de toute façon.
Voilà, exactement. Et le plus de voitures, c'est plus d'individualisme. Le plus de vélos ou de transports collectifs, c'est au contraire, quelque part, retrouver le contact avec les autres. Alors, c'est pas idyllique, le métro à l'heure de pointe, c'est pas idyllique pour rencontrer les autres.
On sait que certains cyclistes font aussi n'importe quoi, faut bien le dire.
Voilà. Et donc, mais globalement, ça attire plutôt la société vers une société plus douce, des villes dans lesquelles on est plus de cohabitation ensemble, plutôt que d'être à appuyer sur son accélérateur, à s'énerver dans les embouteillages, parce que finalement on a un véhicule qui est beaucoup trop large par rapport pour pouvoir se faufiler dans les rues.
Voilà, donc ça va être le thème de cette émission. Là, on a vraiment bien posé le problème. La fête du vélo, donc c'est aujourd'hui, hein, c'est un peu partout en France.
Voilà, 300 villes.
300 villes, voilà, donc beaucoup de manifestations.
Voilà, des manifestations. À Paris, on a un village avec beaucoup de stands, avec des tas de vélos de tout style, pour montrer un peu l'imagination que peuvent avoir les constructeurs de vélos, et puis le concours l'épine du vélo, quelque part, parce qu'on trouve vraiment des choses très, très drôles avec, qu'on peut faire avec le vélo. Et puis, donc, toutes les associations sont évidemment présentes. Il va y avoir des randonnées dans la ville. On va exposer les premiers Vélib, les futurs vélos libre-service de Paris. Donc, voilà, donc c'est vraiment, venez donc, au Jardin Luxembourg pendant ces deux jours, voir le village de la fête du vélo.
Mais vous ne ferez pas forcément du vélo dans le Jardin du Luxembourg,
peut-être. Non, pas dans le jardin, parce que ce n'est pas autorisé.
Oui, c'est, effectivement, puis on risque de renverser les sénateurs, donc il ne faut pas le faire. Donc, on poursuit notre voyage à vélo, et voici M. Joe Cooker, qui est venu à pied, je pense, oui.
Saddened by my visible light, sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without tenita. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn from my soul. Stand by me as I grow home. I'm just trying to climb a nine hill in 7 short days. Yeah. I saw myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone, no doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn from my soul. Stand by me as I grow old. I've just tried to climb up 9 hills in 7 short days. So sing a hymn from my soul. Today I look good, yes I have to say. Polished till it won't shine no more. Flying dragons surround my door. If and when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn from my soul.
Eh ben oui, c'était Joe Cocker qui se gare tranquillement avec son vélo, donc il prend très très peu de place. C'est le thème, vous l'avez compris, de CO2 Mon Amour. Une fois de plus, on ne remet pas, on souhaite juste remettre la voiture à sa place dans les villes, pas du tout d'éradiquer les voitures. Je sais très bien les problèmes de l'étalement urbain de plus en plus, ça veut dire les problèmes du foncier, donc on va de plus en plus loin. Ah ben vous êtes gentil, j'habite à 50 km et moi qu'est-ce que je peux faire? Ben pas grand chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, pas grand chose. Quoique, de temps en temps quand même, Denis Baupin, notre invité, je vous le rappelle, il y a quand même des moyens, ce qu'on appelle, alors ça c'est le langage un petit peu barbare, ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une alliance, on va dire, entre le vélo et d'autres transports publics. Quelle forme ça peut prendre? Je sais pas, j'habite, mettons, à 20 km, mais ma maison est à 4 km, mettons, d'un RER.
Bon, donc la solution, c'est en effet, évidemment, de mettre une station de vélo, alors soit simplement un garage à vélo gardienné, pour qu'on soit sûr de retrouver son vélo le soir, qui permette d'aller donc à vélo jusqu'à la station de RER et ensuite de prendre le RER. C'est ça l'intermodalité.
Forcément d'embarquer le vélo dans le RER.
Non, parce que ça c'est extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les transports collectifs, le vélo peut peser lourd, etc. Et la solution qu'une partie des habitants des Pays-Bas peuvent avoir, par exemple, ou à Copenhague, c'est d'avoir deux vélos, en fait. C'est-à-dire qu'un vélo pour aller de son domicile jusqu'à la gare de RER et un deuxième qui permet d'aller à la gare d'arrivée de destination jusque à son lieu de travail, et donc ils laissent leur vélo à l'année sur ces points de stationnement et l'utilisent tous les jours. Bon, en France, on n'en est pas encore complètement là, mais en tout cas, ce sont des éléments de réponse pour trouver une façon d'imaginer autrement le déplacement, parce que de toute façon, pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, l'automobile, bon, ça reste un élément de la solution, mais on va être obligé d'aller vers une diminution de l'utilisation. C'est obligatoire, oui. C'est quelque chose qui est indispensable pour notre santé et pour l'équilibre de la planète. Aujourd'hui,
physique et mathématique, de toute façon, mais même si le fameux pic de pétrole, on va se dire 2012, 2015, etc., mais de toute façon, on y va.
Quoi. Exactement. Et puis en France, on consomme et on pollue trois fois plus que ce que la planète peut accepter. Oui. Hein, donc, à partir de ce moment-là, il faut bien se dire que soit on veut obliger le reste de la planète à subir le sous-développement pendant des décennies, ou alors si on est un petit peu solidaire de l'ensemble des humains de cette planète, eh bien, il faut bien se dire que nous, qui sommes aujourd'hui les privilégiés, eh bien, on doit un petit peu modifier nos habitudes. Ça ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre, ça veut dire modifier un peu ses habitudes et prendre un peu moins souvent le véhicule individuel et un peu plus souvent aller vers le collectif.
Alors un homme qui est en face à vous, qui vous écoute avec intérêt, que vous connaissez bien, c'est Hubert Peigné. Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le monsieur vélo. C'est-à-dire que vous avez été nommé, vous avez été en charge de coordonner une politique vélo au niveau de 6 ministères. Donc, alors maintenant, d'ailleurs, ça va être un petit peu mieux parce que donc les transports et environnement sont regroupés, entre autres avec l'énergie et puis équipement avec Monsieur Juppé. Mais donc, coordonner 6 ministères, les transports, l'écologie, l'intérieur, jeunesse et sport, tourisme, etc., c'est sûrement pas simple, d'autant que vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de moyens les uns les autres. On attend toujours, donc bien sûr, un plan vélo qui n'est pas encore là. Mais qu'est-ce que vous constatez, puis comment on s'y prend pour essayer d'irriguer cette culture vélo, je dirais, auprès de vos collègues?
Pour compliquer un peu la chose, il y a aussi des ministères qui ne sont pas au départ de l'opération, mais qui rentrent progressivement. On peut parler de l'intérieur, peut-être la justice, l'éducation nationale, la santé.
On voit des policiers à vélo. Hein.
Oui, bien sûr. Hein. Fréquemment, dans pas mal de villes maintenant, policiers municipaux ou policiers nationaux, c'est vrai. Donc l'exercice est à la fois un peu plus compliqué, mais en fait plus ambitieux. Puis vous le disiez sur d'autres pas, c'est pas à pas qu'on va y arriver. Hein. Oui. Les exemples étrangers auxquels on pense.
Alors qu'est-ce que vous avez, justement, comme exemple étranger? On va faire un petit tour là en Allemagne dans quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne bien?
On peut en citer rapidement. Denis Baupin tout à l'heure parlait d'Amsterdam, ou plutôt des Pays-Bas, je crois, et de Copenhague. Donc c'est vrai, comme par hasard, et c'est pas un hasard si Denis Baupin les cite, c'est que c'est vraiment les deux pays, Pays-Bas et Danemark, où le vélo au quotidien est le plus utilisé.
28% des déplacements se font donc à vélo. Il faut préciser aussi qu'en matière de transport en commun, ils sont peut-être pas très très bons non plus. Hein, donc,
général, dans les villes hollandaises comme dans les grandes villes danoises, la part d'utilisation du transport collectif est plus forte que chez nous tout de même.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Et en fait, ça confirme tout à fait ce que dit Baupin, c'est-à-dire que vélo et transport collectif, c'est ce que vous disiez au début quand vous lui avez posé la question, c'est vraiment deux outils complémentaires. Mm-hmm. Le transport collectif est extraordinairement valorisé par l'utilisation possible, si on la rend possible, du vélo. Et donc, ça veut dire que dans la totalité d'un territoire d'agglomération, hein, autour des grands axes, il faut effectivement rendre possible le garage des vélos, l'itinéraire, etc.
Mais là, il y a des volontés politiques, c'est-à-dire aussi bien que ce soit dans un Länder allemand ou bien que ce soit, je ne sais pas comment sont constitués tous les pays, mais lorsque je vois 18% donc de déplacements à vélo au Danemark, 13% en Suède, Belgique 10%, à peu près le même chiffre aussi en Suisse, 5,5% en Irlande, en Autriche, et vous allez me dire la France, on est à quoi, 3-4% de niveau pain à peu près.
Oui, on est vraiment beaucoup trop bas. Donc là, vous avez raison, c'est une question de volonté politique. Peut-être aussi de matraquage publicitaire fait sur l'automobile en France, parce que...
C'est le premier annonceur.
Exactement. Un milliard d'euros chaque année est consacré à la publicité pour l'automobile. Parce que, et toute la fiscalité qui a été mise en place pour favoriser les véhicules diesel, dont on se rend compte aujourd'hui que, de toute façon, le coût global pour l'usager est finalement plus élevé que le véhicule essence, mais que le coût pour la santé, par contre, est dramatiquement plus important.
Mais il y a un côté complètement irrationnel, c'est toujours ça.
C'est vraiment, vraiment parce que c'est Peugeot qui est le premier constructeur de diesel. En France, on continue à favoriser ces véhicules. C'est un non-sens complet. Et ce qu'on constate, c'est que des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, si le vélo reste important, c'est qu'il n'a jamais diminué. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cherché à salir le vélo, à en faire un moyen de déplacement dégradé, en quelque sorte. Et donc, en France, la reconquête prend plus de temps. Mais on avance bien, notamment sur la complémentarité transport collectif, les régions, par exemple, commencent à bien comprendre que, puisqu'elles ont acquis la compétence des TER, des trains express régionaux, qu'il y a une vraie complémentarité à développer avec le vélo.
Hubert Peigné.
Oui, c'est vraiment, vraiment exactement ça. Si je reviens au pays dont on parlait tout à l'heure, mais à d'autres, hein, la Suède, etc., ce qui est frappant, c'est que le plus souvent, les automobilistes sont aussi cyclistes. Ou, dans le pire des cas, les proches, leurs familles sont aussi cyclistes et quotidiens.
Il paraît qu'ils sont piétons aussi.
Exactement, oui, ça arrive.
C'est incroyable.
Donc, ça veut dire que cette mauvaise image du vélo, de toute façon, ils ne l'ont jamais eue parce que, peut-être qu'au moment où ils risquaient de l'avoir, globalement, la société de ces pays a réagi. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise image. Il y a au contraire une très bonne image. Et ça concourt à une chose, c'est que dans une ville, quand vous êtes dans une ville suédoise, hollandaise ou danoise, vous êtes en général... avec des piétons, avec des personnes handicapées, c'est assez frappant de voir beaucoup de personnes en fauteuil roulant électrique qui circulent librement, ce qui est quasiment impossible dans nos villes. Et tout ça va ensemble. Et en plus, vous avez quelques voitures autour de vous. Bien sûr, ils ont des voitures, autant que nous. Ils ont autant de kilomètres que nous, mais dans leur ville, les voitures vont beaucoup plus doucement. Alors, et d'ailleurs, en plus, quand vous êtes cycliste, excusez-moi, dans une ville des Pays-Bas ou de Suède, vous êtes vous-même un cycliste qui va... doucement, pas trop doucement, mais doucement. Vous ne pouvez pas faire les pointes de vitesse et puis les plus ou moins incivilités que vous évoquiez tout à l'heure.
Tout à fait, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. On va faire un petit tour en Allemagne, justement, et on va rejoindre Jürgen Hartwig. Alors, Jürgen Hartwig, c'est un homme qui a déjà participé à cette émission. Je me souviens, c'était au Salon de Saint-Louis, puis une autre fois, on s'était croisé à Lorient. Nous sommes non loin de la Forêt-Noire, donc à 70 km de Colmar ou bien de Mulhouse. L'agglomération, c'est 215 000 habitants. C'est une ville qui fait 153 km², pour vous donner effectivement un petit peu l'idée. Et là, lorsqu'on parlait de véritable volonté politique, eh bien, c'est tout à fait le cas. Jürgen Hartwig, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Chessou, oui.
Alors, parlez-nous, s'il vous plaît. Donc, on pourrait évidemment très, très bien parler de la construction des bâtiments, on l'avait déjà fait, de l'énergie, etc., parce que là, vous êtes assez exemplaire. Mais là, on va vraiment se focaliser sur transport en commun et vélo. Lorsque l'on va là-bas, j'y suis allé plusieurs fois. Alors là, c'est incroyable, parce que vraiment, le vélo a la priorité. Quelle a été la volonté? Comment ça se traduit sur place, l'utilisation à la fois du vélo et aussi le couplage avec les transports en commun?
Oui, c'est comme vous avez bien introduit, c'est une intermodalité et exactement, c'est ça, certains gens font, ils ont deux vélos, par exemple, une ici à Fribourg, une autre à Bâle, parce que les gens prennent le matin les vélos pour arriver à la gare centrale, ils continuent en train, arriver à Bâle, en Suisse par exemple, ils retrouvent leur deuxième vélo, ils continuent au boulot.
Et alors, vous avez aussi, je vois qu'il y a quand même, en matière de fiscalité, vous avez des places de parking qui sont très chères en centre-ville, et puis en revanche, les parkings à l'entrée des villes sont gratuits, il me semble.
Oui, mais il faut une politique qui, je ne veux pas dire qui bloque complètement les voitures individuelles, mais qui mette quelques obstacles pour favoriser les vélos. Parce que si on laisse, pour les voitures individuelles, on laisse tout comme avant, c'est plus difficile de... demander les citoyens d'utiliser les vélos.
Et alors maintenant, en ce qui concerne donc, les bicyclettes, vous avez plus de 400 km de pistes cyclables, donc c'est quand même assez important. Comment ça se passe? Comment on régularise, je dirais, tout ce flot et tous ces flux de vélos? Les gens sont assez disciplinés?
D'accord, ils n'ont pas toujours discipliné. Par exemple, on a eu les problèmes dans la zone piéton où à l'époque, il y a beaucoup de cyclistes qui sont traversés la zone piéton. Et là, un jour, la police était obligée d'arrêter et même envoyer des amendes pour dire, voilà, zone piéton pendant la journée interdit au vélo.
Vous avez des rues qui sont en double sens pour les vélos et en sens unique pour les voitures. Ça aussi, c'est un peu une nouveauté.
Oui, mais ça existe uniquement dans les quartiers où il s'agit des zones 30.
Oui.
Parce que là, les voitures ne roulent pas déjà trop vite et ils ont bien des panneaux qui indiquent, voilà, on peut risquer de trouver des vélos qui viennent des contresens.
Alors, je vois que vous avez aussi une politique tarifaire qui a été tout à fait audacieuse parce que la Forêt-Noire n'est donc pas loin et on peut aller faire donc une grande balade jusqu'à, on va dire, 50 km à la ronde avec un tarif pour toute la famille.
Oui, c'est vrai, c'est la tarification et aussi la fréquence des différents trains, bus, tramways. C'est par exemple l'idée que le dimanche, avec votre ticket mensuel annuel, vous pouvez inviter toute votre famille pour faire les cours, pour faire les randonnées dans la Forêt-Noire.
Ah, sur le même ticket?
Oui, exactement.
D'accord. Donc on peut emmener ses copains.
Pourquoi? Parce que c'est les mêmes arguments des chauffeurs des voitures qui disent « j'ai mis les réservoirs pleins et si j'invite 4 personnes ou 1 personne, ça me coûte le même prix ».
Oui. Alors, comment on s'y retrouve au niveau de la collectivité? C'est-à-dire qu'on va vous dire « oui, mais tout ceci a un coût, ça coûte peut-être extrêmement cher ». En fait, quels sont les bénéfices qu'une ville comme Fribourg retire de tout cela, de cette politique?
Oui, d'accord, on parle beaucoup des CO2, on parle beaucoup des climats, mais je veux aussi mettre une autre phrase dedans, je veux dire « qualité de vie ». Qualité de vie attire les clientèles, attire les touristes, attire les citoyens, les entreprises.
Et les médias, aussi... la preuve, on en parle. Donc...
Pardon?
Je disais, et aussi les médias, puisque la preuve, on est en train d'en parler aujourd'hui. Donc...
Oui, exactement.
Voilà. Enfin, c'est pas le plus important. Mais c'est... Oui, donc effectivement, c'est une émulation tout à fait générale. Et tout le monde utilise le vélo, moi je voyais, hein, c'est-à-dire des personnes, on va dire les seniors, personnes âgées, les personnes moyennes, les petits, c'est une vraie culture hein, chez vous.
Exactement. Je veux dire, en France, le vélo est très connu, mais normalement par les France Tour de France, VTT, ça veut dire on fait le week-end en vélo, mais on utilise pas tellement le vélo pendant la semaine pour aller à l'université, pour aller au boulot. C'est ça intéressant.
Et vous n'avez pas trop d'accidents? Parce que je disais, parce qu'une des peurs, un des freins, on va dire, en France, c'est à la fois les accidents. Les gens vous disent, bah oui, j'ai peur de me faire écraser par une voiture, ils n'ont pas forcément complètement tort. Et puis, aussi, évidemment, le vol des vélos. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela?
Non, d'accord, pour la sécurité, c'est pour ça, vous avez dit, on a beaucoup de pistes cyclables qui mettent en sécurité les cyclistes. Mais par exemple, une fois, j'étais en vélo à Dijon et je me trouvais vraiment, comme on peut dire, nu. Sur un goudron parce que les voitures autour de moi, j'avais pas aucune sécurité. Et ici, c'est vraiment souvent, il y a des rues qui sont complètement, uniquement prévues pour les cyclistes. Mmh. Ben, c'est une autre sécurité qu'on trouve ici.
Bon, et en ce qui concerne l'image de marque, tout va bien, les gens ne se sentent pas dévalorisés parce qu'ils sont sur une bicyclette.
Oui, je veux dire, bicyclette, c'est pas pour les pauvres, c'est aussi pour les riches. Vous pouvez acheter un vélo à 4000 euros et là, vous pouvez acheter un vélo Mercedes ou BMW.
Eh ben voilà, on est rassuré, c'est très bien. Bon, en tout cas, on va rappeler qu'une ancienne place de parking chez vous, on peut mettre pratiquement 10 vélos dessus. Merci à vous, Jürgen Hadwig, hein, en tout cas pour ce témoignage, parce que ça nous intéresse bien au cours de cette émission. Et puis, bonne virée à bicyclette, parce que le temps doit être assez joli si vous devez aller en Forêt-Noire. À très bientôt, Jürgen Hadwig.
Oui.
Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bah écoutez, ça c'est un exemple. Il ne s'agit pas de se dire on va reproduire tout systématiquement. C'est pas ça de faire du copier-coller. Mais quand même, je veux dire que ça fonctionne. On va me dire, bon, culture allemande, culture écologique plus affirmée, etc. Mais quand même, là, ça
montre bien que.
Il n'y a pas de Fribourg.
Exactement, il y a beaucoup de villes dans lesquelles on arrive à trouver une autre façon de vivre en ville, de cohabiter, de pouvoir se déplacer avec différents moyens de déplacement. Et ce qui est ce que montre clairement ce témoignage, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut adapter la ville pour qu'elle soit accessible, sécurisante pour le cycliste. On n'est plus du tout dans le dogme que Pompidou propageait en disant qu'il fallait adapter la ville à la voiture. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que la ville n'était plus...
D'où les voies sur berge, etc.
Exactement. Voilà, mm-hmm. La ville n'était plus dessinée par les urbanistes, mais dessinée par les constructeurs automobiles.
Et même d'ailleurs aussi la ville de Lyon qui a été traversée, voilà, éventrée par une autoroute à l'époque de M. Pradel.
Exactement. Mm-hmm. Et donc là, il faut au contraire faire en sorte que nos villes soient des endroits dans lesquels on ait de la qualité. Et je crois que c'était important dans ce témoignage de rappeler que ce n'est pas mauvais pour l'économie. Hein, oui. Parce que lorsque les grands instituts comparent les capitales pour l'attractivité pour les entreprises, le facteur qualité de vie est un facteur important pour les gens qui travaillent, pour le choix d'implantation d'une entreprise. On regarde ça aussi. Et ce n'est pas par hasard si Paris arrive dans les premières villes avec Londres. C'est aussi parce que le réseau de transport collectif est un réseau extrêmement efficace dans Paris et Trabéros.
Hubert Peignet.
Oui, je confirme, les villes des pays dont on parle sont en général des villes pas pauvres. J'ajouterais d'ailleurs qu'elles sont souvent moins frappées par la ségrégation ou par la grande différence de revenus entre les revenus les plus faibles et les plus forts. Vous avez à la fois un écart plus faible, mais globalement un niveau de revenus, la richesse des villes, hein, qui est tout à fait ce qui a été dit. Moi, dans le témoignage de Jürgen Hartwig aussi, ce que je retiens, c'est que finalement, vous lui avez fait parler de toute une gamme d'actions. Oui. Et dans quelques villes françaises, on commence à avoir une approche qui n'est plus, comme on y pensait autrefois, piste cyclable. Vélo égale piste cyclable. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop court. C'est même, en général, pas par ça qu'il faut commencer. Bon, la première, puisque c'est historique en France, c'est Strasbourg. Mais depuis quelques années, il y a tout de même des villes qui abordent, on peut dire, tous les sujets. Plus ou moins vite, avec plus ou moins d'actions. Bon, Paris, c'est clairement un exemple. Lyon commence à être un exemple aussi. Mmh. Grenoble l'a été depuis longtemps, avec des résultats là aussi variables. Mais variables, je veux dire par là que ce qui est intéressant à Grenoble, c'est qu'en plus, quand quelque chose semble pas très bien aller, Grenoble réagit, par exemple. Hein. Grenoble porte remède, essaie de porter remède là où ça ne va pas. Et on a quelques bons exemples en plus, par comparaison avec des pays étrangers. Je vais juste en prendre deux. Le premier, c'est un collège dans la banlieue de Montpellier, Jacou, où aujourd'hui, il y a plus de 50% des collégiens qui viennent en vélo tous les jours. Ça va même jusqu'à 80% à la belle saison. Alors que la moyenne des collèges français, c'est entre 0 et 3-4%. C'est donc au moins 10 fois plus.
Quand il y a une infrastructure, une incitation, ça fonctionne.
Exactement. Oui. Vous avez la piste cyclable sécurisée, éclairée, etc., qui n'est pas très longue. Et pourtant, Dieu sait s'il y a un exemple de périurbanisation, pardon pour le terme. En gros, développement urbain mité, hein, le mitage qu'on connaît en France, eh bien, les gens du secteur de Jacou ont su réagir contre ça. Mais aussi parce que dans le collège, vous pouvez garer votre vélo. Et oui. Ils ont commencé, je me trompe peut-être dans les chiffres, mettre 80 places, ça a été complet, 100 de plus, ça a été complet, etc.
Alors on va continuer effectivement avec un autre exemple, mais on va partir donc à Nantes tout de suite, où on va donc rejoindre François Drugy, qui est le vice-président de Nantes Métropole. Et François Drugy, vous allez nous parler, vous, de vélobus. Alors rappelez-nous, le vélobus, qu'est-ce que c'est ?
Alors le vélobus, c'est tout simplement le ramassage scolaire à vélo. Voilà pourquoi ça s'appelle vélobus, un peu comme les bus de ramassage scolaire. Et en fait, c'est l'organisation avec les parents d'élèves d'un ramassage des enfants qui vont à l'école, les enfants plutôt de l'école primaire évidemment, et qui vont à vélo accompagnés par leurs parents. Mais ça peut être un ou deux parents pour un groupe de 4, 5, 6 élèves et qui vont tous les matins et qui reviennent tous les soirs à vélo. Qui permet d'éviter les embouteillages et les problèmes de stationnement aux abords des écoles.
Alors on connaissait le pédibus, mais là c'est le vélobus, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, et nous à Nantes, on a d'ailleurs plus développé le vélobus que le pédibus grâce à un partenariat avec l'association Place au Vélo qui organise la formation des parents, qui donne un petit coup de pouce au départ pour organiser les circuits, pour sensibiliser à la pratique du vélo en ville. Et puis, nous subventionnons ça en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Et ça marche bien, puisqu'au départ, on était plutôt à essayer de convaincre les parents d'élèves ou les responsables d'école, les enseignants, les directeurs, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est eux qui viennent nous voir, et on a même un peu de mal, des fois, à faire face à toute la demande.
Parlons maintenant aussi des campus. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des campus à Nantes ?
Bah oui, à l'autre bout de la chaîne, si on peut dire, depuis les tout petits jusqu'aux étudiants, bilan, on a depuis plusieurs années maintenant un soutien à l'association Vélo Campus. Donc c'est une association gérée par les étudiants, et ça pour nous c'est très important, qui prête des vélos pour soit un mois, plusieurs mois, en général c'est l'année scolaire étudiante, donc de octobre à mai. Beaucoup d'étudiants étrangers d'ailleurs prennent ce service pour une somme assez modeste, puisqu'on est à moins de 40 euros l'année pour un vélo qui est en général neuf ou très récent, puisqu'ils sont renouvelés tous les 3 ans, et ça permet de développer la pratique du vélo sur le campus universitaire.
Domicile-travail, là aussi on y réfléchit, on y pense, que fait-on ?
Ben c'est vrai que pour nous, les trajets domicile-travail, ça représente un quart des trajets dans l'agglomération nantaise. Ça fait 500 000 déplacements par jour, c'est énorme. Mmh. On a ciblé ça prioritairement il y a quelques années pour essayer de modifier les comportements. C'est toujours la même chose, hein. On est dans l'accompagnement du changement d'habitude et de comportement. Et donc dans les entreprises, nous avons mis au point ce qu'on appelle des plans de mobilité d'entreprise. Mmh. C'est des contrats qui sont passés entre nous, la collectivité Nantes Métropole, l'employeur et les employés. Alors bien sûr, il y a des offres qui concernent les transports en commun, mais nous, on tenait à ce qu'il y ait aussi des actions en faveur du vélo, parce que le vélo, c'est un mode de déplacement souvent très pratique pour aller de son travail à son domicile et vice-versa. Et donc, on a, dans certains établissements, comme l'hôpital, par exemple, multiplié par 2 en à peine 2 ans le nombre d'utilisateurs réguliers du vélo grâce à des petits aménagements souvent tout simples. Ici, un petit garage à vélo, là, un vestiaire, là encore, peut-être une douche, et puis sinon, des kits vélo sécurité qui sont distribués aux salariés qui s'engagent à utiliser le vélo. Donc c'est une chasuble, c'est des pinces à vélo, c'est un casque, c'est une pompe, c'est ce genre de petites choses qui permettent, on a même été jusqu'à faire des cours de vélo urbain pour réhabituer ceux qui ne l'avaient pas fait depuis longtemps à faire du vélo en ville.
Alors c'est la fête du vélo ce week-end, chez vous, demain, dimanche, là on va marier à la fois le vélo et la culture.
Oui, la fête du vélo à Nantes a pris beaucoup d'essor ces dernières années grâce à l'association Place au Vélo qui l'organise. L'an dernier, il y avait eu près de 18 000 cyclistes qui y avaient participé. Et cette année, elle prend une ampleur encore supplémentaire puisqu'elle va être couplée au projet Estuaire 2007 qui commence dès aujourd'hui sur tout l'estuaire de la Loire jusqu'au mois de septembre et qui est une exposition artistique et culturelle en plein air. Et donc, eh bien, on pourra la découvrir à vélo en faisant la fête du vélo ce dimanche 3 juin.
Eh bien, merci à vous, François Drugy.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Au revoir.
Et bienvenue à Nantes.
Nous y serons. Voilà. Et quoi donc ? Eh bien, du côté de Brest, je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir écouter qui ? Miossec. Eh bien, ils font partie aussi du club des villes cyclables. Je ne sais pas s'ils pédalent beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, nous partons. Et ils nous chantent quoi ? Maman. Oui, maman, je suis sur un vélo, Miossec. Oui.
Je n'ai pas su devenir l'homme qui devait tant te plaire, qui aurait dû assouvir toutes tes prières. J'ai même appris à te mentir, à te voir sous une autre lumière. Tu voyais mon avenir un peu plus terre à terre, mais je suis tombé dans les orties, j'ai dévalé dans les fougères en voulant te faire plaisir. En sortant de l'ordinaire, j'ai côtoyé le pire. J'ai fait les nécessaires pour un jour te faire sourire, et tout du moins, je l'espère. Rien de l'avenir.
contrôle plus mes arrières. J'ai succombé à des plaisirs qui devraient un jour te déplaire.
Sa maman, bien sûr, c'était donc un hommage déjà un petit peu en avance avec la fête des mères. Benjamin nous dit que j'habite Maastricht aux Pays-Bas. Je travaille à 20 km de Maastricht, je le fais tous les jours à vélo. Le tout en gardant mon style, je ne suis pas un illuminé. Ici, beaucoup de gens le font. Tout ça pour dire que c'est possible et que c'est une question d'éducation. Et en plus, ça rend les filles plus minces et plus jolies, c'est formidable. Ah, tenez, j'ai envie de rebondir un tout petit peu là-dessus, parce que là, on a malheureusement un vrai problème d'obésité en France, de Denis Baupin. 11% des personnes donc, sont touchés et un docteur disait que le vélo ça pouvait être aussi un vaccin contre l'obésité.
Exactement, je pense que par rapport à l'obésité, évidemment il y a tout le travail qui doit être fait sur l'alimentation, mais il y a aussi le travail sur la lutte contre la sédentarité. Transporter les enfants tous les matins en voiture pour aller à l'école, ben c'est pas la meilleure façon pour les aider à s'entretenir physiquement.
D'où les pédibus ou les vélobus.
Exactement, et donc moi j'avais été frappé d'entendre le docteur Sarrazin qui était venu au club des villes à un autre congrès qui avait listé l'ensemble des maladies, il y en avait tas que je ne connaissais pas d'ailleurs, cardiovasculaires, oui. etc.
Rien que les noms, ça fait peur.
Voilà, c'est exactement sur lequel le risque de tomber malade est abaissé de plus de 50%, donc si on pratique régulièrement le vélo. Donc ça l'a amené d'ailleurs à conclure que ce n'est pas faire du vélo qui est dangereux, contrairement à ce qu'on croit, c'est ne pas en faire qui est dangereux pour la santé, parce que finalement on ne fait pas assez d'exercice. Et donc le ministère de la Santé a lancé des bonnes campagnes pour dire qu'il fallait se déplacer à pied 30 minutes par jour. Je pense qu'il pourrait ajouter dans la prochaine campagne que si se déplacer à pied ou à vélo, parce que c'est aussi une bonne façon de se maintenir en bonne santé.
Et Juliette nous dit, après une trêve hivernale, j'ai repris mon vélo pour aller au bureau début avril. Bastille, Montrouge en 35 minutes, beaucoup moins long qu'en métro. En descente le soir, pas besoin d'avoir énormément de courage. Ça nous fait du bien. Bon argument cosméto écolo pour convaincre toutes ces dames en voiture qui se serrent la ceinture de mars à août, n'est-ce pas? Voilà. Donc on a pas mal de témoignages aussi dans ce sens-là. Alors une autre personne nous dit, je hais les cyclistes parce que j'ai peur, certains risquent de m'écraser sur les trottoirs, et là on revient sur les incivilités, bien sûr.
C'est clair que la place des cyclistes n'est pas sur les trottoirs, et pour qu'ils ne soient pas sur les trottoirs, il faut qu'il y ait des pistes cyclables.
Et ben voilà. Et puis nous avons, alors ça c'est pour le plaisir, c'est Xavier Pessoudja qui a retrouvé ce merveilleux témoignage. J'avais complètement oublié, un jour j'avais rencontré des proches, donc ça date d'une quinzaine d'années, c'est pas exactement du vélo en ville, mais c'est pour le plaisir. Allez, avec Pierre Desproges.
Je vous surprends, je suis partisan, pratiquant du vélocipède, contrairement à ce ce livre laisse à penser. Mais à la différence des coureurs du Tour de France, je fais du vélo tout seul. J'ai horreur des groupes et des bandes, et je fais du vélo tout seul, et ça n'a strictement rien à voir avec le Tour de France. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que quand j'étais enfant, dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui admiraient ce genre de course, et qui nous gâchait nos dimanches à nous traîner sur des fossés embourbés où on voyait des connards qui pédalouillaient la tête plus bas que le cul dans les côtes, ce qui leur donnait l'air con. Et j'aime pas les gens qui se courent les uns derrière les autres, mais que ce soit derrière un ballon ou autre chose, mais à vélo ils sont encore plus laid. Puis il y a tout un folklore, il y a un costume qui est d'une hideur pas possible, enfin. Alors donc j'aime pas les courses de vélo, mais le vélo en tant qu'objet de consommation personnelle, oui.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Ah bah oui, non, mais si on s'est fait, c'est pas mal, hein, quand même, il était en forme. Alors, on a beaucoup de courriels. Bâtonnet, Christian Dupont nous a écrit, je suis le conseiller pour la presse de Christine Boutin, ministère du Logement et de la Ville. Je me rends au ministère en vélo parce que c'est plus rapide, plus pratique, plus écologique, plus sain. Vous voyez, hein, ça, tous les clivages, hein, ça passe, là.
Exactement, mais de toute façon, j'ai vu que M. Juppé, depuis qu'il était ministre, a continué à se déplacer dans sa ville à vélo.
J'ai plein
de désaccords avec M. Juppé sur beaucoup de choses, mais là, je trouve que c'est bien parce qu'il faut montrer que les responsables politiques, même même au plus haut niveau, peuvent se déplacer à vélo, qui a ça absolument rien de ringard.
Non, tout à fait. Et puis donc le couplage entre le tramway avec la véritable volonté politique qu'il fallait, et puis donc aussi le vélo, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. J'habite au Danemark, nous dit Aurore. Et ben voilà, un vrai bonheur pour les cyclistes, en ville comme à la campagne. Ici, tout le monde utilise le vélo, y compris les ministres. Alors à quand la médiatisation des déplacements de nos ministres en vélo plutôt que celle de leur jogging? Je vois pas du tout à quoi elle fait allusion. Bon, alors tenez, on va se faire un petit tour justement du côté de Lyon, s'il vous plaît, car à Lyon, on va rencontrer Gilles Vesco, qui est le vice-président du Grand Lyon, chargé donc de l'espace public et des nouvelles autorisations, et des nouvelles, pardon, utilisations. Le but, là aussi, c'est de rééquilibrer les modes de transport urbain et l'utilisation de l'espace public. Et donc, il y a cette opération Vélov, hein, donc, qui a été vraiment lancée au printemps 2005. 4000 vélos, la contrepartie, c'est que le marché de l'immobilier urbain et Abribus, avec publicité à la clé, donc, est financé par la publicité, donc par Jean-Claude Decaux. Quel est le bilan, s'il vous plaît, Gilles Vesco, donc, depuis que vous avez lancé cette opération à Lyon?
Alors d'abord, le premier bilan, c'est qu'on a passé le cap des 3000 vélos et qu'on va installer 4000 vélos sur l'espace public de Lyon et Villeurbanne d'ici la fin de l'été. Donc en termes de chiffres, ça fait effectivement 350 stations en tout, et on est impatient de voir le système abouti et voir comment il fonctionne à pleine charge. En deux ans, puisqu'on fête le deuxième anniversaire aujourd'hui, le bilan est positif parce qu'il y a eu une adhésion massive de la population. 20 millions de kilomètres ont été parcourus pour 10 millions de trajets en deux ans. On arrive aujourd'hui à des pointes de 26 000 locations par jour, le record étant...
Oui, c'est des vélos qui ne chôment pas. Hein. D'ailleurs, ils se sont usés plus vite, il a fallu les réparer un peu plus. Hein, oui.
Le turnover est de 10. Ouais. On espérait au début que chaque vélo sortirait au moins une fois par jour. Donc, c'est vous dire le succès massif et populaire de...
Alors, pourquoi ça a fonctionné? Quelles ont été les clés du succès, à votre avis?
Les clés de la réussite, c'est d'abord qu'on a doublé le nombre de stations par rapport à un nombre donné de vélos, par rapport à l'offre initiale que nous avait faite le prestataire JC Decaux. C'est-à-dire que dès le départ, on a dit pour 2000 vélos, c'est pas 100 stations, c'est 200 stations. Mm-hmm. Et ensuite, on a maintenu ce ratio. Alors, on les a un peu agrandis face au succès. Et on a maintenu ce ratio qui fera que pour 4000 vélo, on aura 350 stations. Mais ça, c'est vraiment la clé, c'est la proximité. Il faut que vraiment, on est quasiment du porte-à-porte et c'est ça qui fait le succès.
Gilles Vesco, on rappelle simplement le principe. On va prendre effectivement son vélo sur une borne, donc il est adossé donc à un antivol, et on peut aller donc dans une autre station, plus loin évidemment dans Lyon, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remettre le vélo à l'endroit où on l'a pris. C'est un système one-way, c'est-à-dire sens unique, et c'est ça qui fait la force. Mais pour autant, encore faut-il trouver une station très près du point de départ et très près du point d'arrivée pour créer l'effet d'aubaine et d'opportunité.
Alors, d'un point de vue concret, est-ce que le trafic automobile a baissé? Comment ça se passe?
Alors nous, le trafic automobile, il baisse depuis deux ans à Lyon, ce qui est une bonne nouvelle. Alors c'est un mix, hein, c'est le résultat d'une politique complète, et y compris avec des sites propres, y compris de transport en commun. C'est qu'on prend aussi de l'espace public à l'automobile. Là, on grignote de la part modale à l'auto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui nous disent qu'ils utilisent moins souvent leur voiture depuis qu'il y a Vélov. On sait que 10% des usagers, quand on leur demande sur une station qu'est-ce qu'ils auraient pris comme mode de transport s'il n'y avait pas eu vélo, nous disent de la voiture. Donc on sait déjà qu'en transfert modal absolu, mais ce n'est pas ce qu'on demande forcément aux gens, de tout le temps prendre le vélo plutôt que la voiture. Déjà, s'ils le font une fois par semaine, c'est 10% du trafic en moins. Donc c'est déjà énorme. Voilà, donc on grignote la part modale de l'automobile qui est tombée en dessous de 50% sur le Grand Lyon, qui est à 47%. Il se trouve que la différence de 3%, c'est exactement la part modale du vélo. Donc on pense y être pour quelque chose.
Alors je crois qu'on peut remercier des villes comme Rennes qui avaient commencé cela, donc ce système de libre-service en 1998. Vienne aussi en Autriche. Donc vous êtes inspiré, puis vous avez amélioré le modèle, quoi.
Voilà, c'était un peu le numéro zéro. On a fait ce qu'on appelle du benchmarking, comme dans tous les réseaux de villes. Comme
du comparatif.
C'est du comparatif. On est allé à Vienne, on a adopté et adapté le modèle viennois. On a mis des points d'amélioration sur le vélo. On a doublé le nombre de stations. On a rendu l'accessibilité du système beaucoup plus forte, puisque c'est de la plastique monnaie, c'est de la carte de crédit ou d'abonnement.
Et c'est pas cher, hein, je crois. La première demi-heure est gratuite.
Et voilà. Donc, et même la première heure est gratuite pour les porteurs de cartes de transport en commun, qui représentent 40% des abonnés longue durée, qui fait que 5% seulement des gens payent quelque chose. Il faut payer, mais il faut que ça soit modique. Et je pense que ça a été aussi une des clés du succès. succès. Et puis la dernière clé du succès, c'est que ça touche tout le monde, les jeunes, les étudiants, les bobos, les babas, les 4 sup, les
seniors actifs.
Et c'est ça, on n'aurait jamais fait des chiffres pareils sur un ciblage de la population, d'une population donnée.
Bah écoutez, merci à vous Gilles Vesco donc, pour ce petit point, et puis donc longue vie à Vélove et aux Lyonnais donc, à bicyclette, même s'ils ne montent pas forcément tous fourvières en danseuse.
Merci.
À très bientôt, au revoir Gilles.
Au revoir.
Et Monique Cordier, qui est lyonnaise, donc, nous écrit, nous dit, bon, c'est une très bonne idée, Vélove dans notre ville, mais il n'y a pas assez de pistes cyclables sûres et sécurisées. Là aussi, manque de civisme des cyclistes qui roulent, alors impunément, pas tous hein, sur les trottoirs, faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que y en a, quoi. Faut pas se croire tout permis parce qu'on est évidemment sur un vélo loin de là. Ça nous amène à parler, Denis Baupin, de Vélib, parce que sur cette idée de Vélove, là, donc, qui fonctionne bien, Vélib, ça y est, c'est à Paris, c'est presque là, c'est le 15 juillet que ça commence.
Voilà, le 15 juillet, on aura 10 000 vélos en libre-service. À la fin de l'année, on en aura 20 000. Donc, vraiment, un service...
Ah oui, c'est paquet, hein, vraiment.
C'est... Ah oui, on a largement dépassé l'expérimentation. Là, on est vraiment sur, j'allais dire industriel. Non, parce que ce ne serait pas très sympathique pour le vélo de dire industriel. Mais c'est en tout cas vraiment quelque chose qui va s'étendre dans tous les arrondissements de Paris avec des stations tous les 100 mètres ou 200 mètres près de toutes les stations de métro, notamment. Donc, vraiment, une possibilité de se déplacer facilement à vélo. Et en plus, on a déjà pas mal d'aménagements cyclables, hein, puisqu'on avait à peu près 200 km d'aménagements cyclables au début de cette mandature municipale, et maintenant on en est quasiment à 400, donc on a doublé le nombre d'aménagements cyclables, donc on compte vraiment sur ce dispositif Vélib pour donner un nouveau saut au vélo. Alors, on avait augmenté de 50% les déplacements à vélo depuis 6 ans, et donc avec Vélib, on veut doubler, on veut tripler même les déplacements à vélo, vraiment pour que ça soit une part importante des déplacements dans la capitale.
Alors, je voudrais avoir l'avis de Christophe Raverdi qui nous écoute, qui est le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, autrement appelée FUBICI. Christophe Raverdi, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous effectivement, quel est un peu votre sentiment? Qu'est-ce que vous attendez, on va dire? Alors, tenez, je vous lance là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable?
Eh bien, écoutez, ce qu'on attend, c'est que finalement, les bonnes initiatives qui ont été prises dans sa ville, je vous ai écouté et j'ai entendu Denis Baupin saluer le caractère cyclable de Bordeaux, eh bien, puissent être déclinées à l'échelle nationale. Parce que finalement, il y a des tas de perspectives qui ont été ouvertes ces dernières années. Hubert Peignet, qui nous écoute peut-être, donc,
parce il est là.
Je crois qu'il est avec vous. Bonjour à tous. Le sait très bien. Il faut maintenant passer à l'acte, et je crois que de la part de l'État, du gouvernement, on attend des décisions politiques.
Alors, il y a évidemment toute une politique fiscale, écologique qui va se mettre en route, on l'a bien compris, ça c'était dans le livre de bord, on va dire, de Nicolas Sarkozy. Incitation fiscale, il y a eu l'échec transport, et qu'est-ce que vous attendez aussi en matière de vélo de ce côté-là?
Eh bien, écoutez, il y a eu déjà des propositions qui ont été lancées et qui n'ont pas encore été prises. Hein. Ça n'a pas été suivi des faits. Donc là, il y a tout un chantier qui est explorable et qui permettrait de prendre des mesures effectives pour donner la petite étincelle qui fait qu'aujourd'hui, il y a un frémissement cycliste. Hein. J'entendais François de Rugy aussi tout à l'heure. Moi, je suis nantais. Finalement, on a des aménagements cyclables, les personnes se mettent au vélo, il manque la continuité locale et nationale pour que nos habitants dans nos villes, nos concitoyens, se rendent compte que le vélo, c'est pas si mal et ça coûte moins cher que la voiture et puis c'est mieux pour la santé.
Et puis un mot, donc tout à l'heure, Hubert Peignet a parlé de ce qui se passe dans le département de l'Hérault, mais vous souhaitez que beaucoup d'établissements scolaires soient mieux desservis. Là, on voit cette expérience qui fonctionne très bien et vous aimeriez cela un peu partout en France.
Oui, alors Saint-Sébastien-sur-Loire, dans l'agglomération nantaise, une des 24 communes, on a aussi un collège qui est peu connu, qui est le collège René Bernier, qui depuis déjà une quinzaine d'années a 57% de cyclistes. Malheureusement, la desserte, elle n'est pas à la hauteur finalement de l'utilisation du vélo déjà par les collégiens. Donc là, on peut mieux faire. Dernière chose juste peut-être, les associations de la FUBICI sont sur le terrain à l'occasion de la fête du vélo et puis aussi en attendant la semaine de la mobilité et on propose une action à vélo au travail de juin à septembre, pour se dire et pour montrer que c'est pas simplement le jour de la fête du vélo qu'il faut faire du vélo, ben mais oui, c'est tout le temps.
Bien sûr, non, mais il y en a beaucoup comme ça, des fêtes de la nature, effectivement. On va aussi fêter les femmes une fois par an, etc. Pas du tout, c'est toute l'année tout ça.
Et voilà.
Eh oui, merci à vous, Christophe Averdi. Donc, je le rappelle, président de la FUBIC. On a des petits messages aussi. Oui, 01 42 20 40 40 sur le répondeur.
Bonjour Denis. Le dimanche 3 juin, à Couëron, près de Nantes, le lycée de Jouy-Ivry organise la première course en Europe de vélo à assistance électrique ouverte à tous. L'objet est de montrer qu'avec une bonne gestion de l'assistance électrique, ce type d'engin peut se substituer à la voiture sur des distances intéressantes. À bientôt.
Oui, bonjour Denis. Message de Guillaume Crouot pour annoncer l'opération Allons-y à vélo, parrainée cette année par David Moncoutier. Elle aura lieu du 4 au 10 juin 2007 sur Toulouse et son agglomération. Son but est simple, faire réfléchir tout un chacun sur nos modes de déplacement quotidien et donc inciter dans les entreprises, écoles et administrations à laisser la voiture au garage et à prendre son vélo pour se déplacer, qu'on se le dise. Pour un avenir plus respirable, allons-y à vélo. Merci, à bientôt.
Merci à vous. Alors peut-être pour un petit mot de la fin, on pourrait continuer joyeusement. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit à Tournefeuille, près de Toulouse. Je vois des plans de déplacement entreprises aussi qui se passent à Grenoble, qui se vendent un peu partout, on l'a bien compris. Hubert Peigné, pour que tout ceci arrive à se développer aujourd'hui, que à la limite, on en parle beaucoup moins dans 10 ans, parce que ce sera acquis. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je vais juste pour prendre le point de vue de l'État, puisque je le présente aujourd'hui. Donc moi, comme vous le disiez, j'ai fait une série de propositions, ça fait partie de ma mission, et j'ai notamment bien relevé le nom du conseiller de Mme Boutin, qui est chargé du logement, parce que je vais le contacter, justement, je ne le connais pas encore, il vient d'arriver.
Je vais vous passer son mail, tiens.
Voilà. Oui, je vais le prendre, parce que justement, on a une action avec le club des villes cyclables qui consiste à aider les villes, et en particulier les opérateurs HLM et autres, à installer de quoi garer son vélo dans les logements collectifs.
Oui.
Et donc là, on a besoin d'un cadre politique national, financier, etc.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'autres propositions. Denis Baupin.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multitude d'initiatives, et c'est ce qui est intéressant et qui montre bien qu'on est dans une dynamique positive aujourd'hui, c'est que les initiatives partent de partout. Et donc, le rôle qu'on attend de l'État, puisque Hubert Peigné est là, c'est qu'il soit l'impulseur d'une politique nationale vélo qui manque aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut faire, sur l'abaissement de la TVA, par exemple, sur tout ce qui est vélo. Et matériel de chasubles, etc. pour les cyclistes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour aider les villes à développer le vélo, pour un code de la rue, pour qu'on ait des nouvelles règles, puis sur pas les règles de la route dans les villes. Donc on attend beaucoup de l'État. Il y a une vraie dynamique qui est enclenchée. Je crois que votre émission l'a largement montré.
Merci à vous, Denis Baupin. Et je vous renvoie donc aussi à cet ouvrage « Tout voiture, nos futurs » aux éditions de l'Archipel, en disant « Il y a une vie après l'auto ». On s'en doute bien un petit peu, mais une fois de plus, on ne l'oppose pas. Merci Olivier Rieuteur et Michel Bézikian qui est à la technique aujourd'hui, à Jean-Baptiste Audibert, Jean-Christophe Pinaza, Xavier Pestugia. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 4 semaines, l'enregistrer pendant une semaine. Beaucoup de liens donc créés par Anne Gouzon sur le site. Merci à Karl Vasseur d'avoir choisi nos 2 disques. Et puis, samedi prochain, complètement différent, on retrouve Jean-Marie Pelt, bien sûr, Nathalie Fontrelle pour l'actualité de l'environnement. Et je vous emmènerai respirer du bon air dans la Haute-Maurienne, dans le vallon d'Étache, près de Bramant, avec Yves Berneron, et vous allez voir, vous allez en prendre plein les narines. Et là, vous allez en prendre plein les oreilles avec Mathias Degueil, puisque ce sera le zapping de France Inter dans quelques instants. Allez, il est 15h.